It's alive!
Come in, take a load off.
I'm not too sure with the speed of imagination.
You know, I enjoy killing these monsters. Fire your laser.
Oh, no!
Salut à tous, bienvenue ce soir, The Pinball Podcast, épisode 7 de la saison 4, et non pas de la saison 5. Bah oui, Nico s'est planté, on a été obligé d'aller regarder sur le site pinballmag.fr pour aller voir à quel épisode on en était, et on était à l'épisode 7, mais pas de la saison 5. Je ne sais pas pourquoi Nico nous a mis ça, mais c'est pas grave, on lui dira quand on va le revoir, parce que, évidemment, Saint-Nicolas aujourd'hui, donc Nico n'est pas là, puisque attention, la Saint-Nicolas pour les Vosgiens, c'est tout un poème, hein, vous le savez. Sa femme est Vosgienne, alors là, c'était pas possible aujourd'hui, donc il ne sera pas là. Et vous voyez qu'il y a une petite case aussi, pareil, qui est vide, c'est Aetios qui est sur la route, toujours bloqué dans un rendez-vous professionnel, donc il arrive, il va nous rejoindre avec un petit peu de retard, mais il sera là, bien évidemment. J'espère que vous allez tous bien, moi je suis ravi ce soir d'accueillir bien évidemment Sylvain qui va m'accompagner.
Hello.
De Pinball Mag. Et nous avons donc Jerry, Seb et Alex de Flipper VR. Comment ça va, les gars?
Salut les gens.
Bah, ça va super bien.
Alors, par où commencer? Peut-être par le commencement. Nous avons découvert nous Flipper VR au salon de Pontac il y a 2 ans maintenant. On ne connaissait pas du tout le projet et franchement, ça a été notre coup de cœur du salon. On a passé un bon moment avec eux sur leur machine, à découvrir la machine, à leur poser des questions. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les moments qu'on a passé avec eux sur la vidéo qu'on avait faite sur YouTube, sur Pontac. Et vous allez pouvoir déjà avoir Alex qui était en interview et qui a répondu pas mal aux questions à ce moment-là. Le projet, vous vous doutez bien, depuis 2 ans, a sacrément bougé, sacrément évolué. Donc, on va se faire un petit point. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un peu la genèse, vous présenter? Alors, je sais que c'est hyper bateau, hyper classique, mais quand même, ça va permettre à ceux qui ne vous connaissent pas encore de pouvoir savoir d'où tu viens, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Voilà. Qui s'y colle? Alors, Alex, Jerry,
bah,
ou Seb?
Ouais, moi, je veux être...
Vas-y, Alex.
Moi, je veux être riche. Donc, si vous pouvez acheter là tout de suite là, des flippers VR, s'il vous plaît.
Bon, Alex,
il y a une promotion. Non, alors moi, je suis Alex. Je fais partie de la team. Alors, la team, comme on vous a expliqué, là, on est 3, mais bon, il y en a d'autres, hein, évidemment, surtout sur la partie dev du côté de chez Eric et Seb. On en parlera après. Donc, moi, je suis Alex. Je suis vieux. Je suis plus vieux que les autres, hein, il me semble. Donc moi, je viens de la télévision. J'ai travaillé pendant 30 ans à la télévision, surtout sur la partie technique. Et puis il y a 6 ans, à peu près, 6-7 ans, en 2015, ouais, c'est ça, ça fait presque 8 ans même, je me suis mis à la réalité virtuelle. Et depuis 8 ans, donc, je fais de la réalité virtuelle et en ce moment, en tant que réalisateur d'expériences immersives. Voilà, donc c'est ça l'idée. C'est un peu pour ça qu'on est parti sur cette idée de Flipper avec Seb et Eric, dit Jerry, que je vois sur son téléphone. Tu lâches ça tout de suite, on t'a dit. Voilà. Voilà, donc voilà, je me suis présenté, ça suffit, je pense. Je laisse les autres faire.
Ok, donc moi c'est Seb, Eric et moi-même on est frères. Nous on a une société en fait depuis, oh là je m'entends parler, on a une société depuis 2006 qui s'appelle l'agence Otidea. Donc nous on fait le développement d'applications web historiquement, applications digitales et multimédia. On intègre un pôle vidéo et on s'est mis à peu près à la même période que toi Alex, à la réalité virtuelle.
Bah, c'est un peu même grâce à Alex.
Ouais, mais un peu grâce à Alex.
Ouais, de toute façon, c'est tout grâce à moi. Enfin, je vous explique pas après, quoi, mais c'est quand même moi qui ai tout fait. C'est quand même moi qui ai tout fait, bande de...
Enfin, pour la petite histoire, Alex, on se connaît depuis autour des années 2000. Il a travaillé sur la série et en production, il va expliquer. Et on s'est retrouvés, 20 ans après.
Ouais.
On ne donne pas les âges. Merci.
Ah, voilà. Je n'ai pas donné d'âge. Et on s'est retrouvés au Salon du Bourget il y a 4 ans.
Ouais.
Et puis, on a eu une petite discussion, on parlait VR, on était tout contents de se retrouver, on avait déjà échangé un peu sur des technos, et là, l'idée de Flipper VR est née.
Oui, parce qu'après, ce qui est important aussi à expliquer, à dire, c'est que on développe que des solutions sur mesure et que ça faisait déjà pas mal d'années qu'on avait développé des solutions pour des sociétés comme Total, EDF, ou différents groupes. Et on se disait, ben, ça serait bien d'avoir notre propre jeu. Alors, c'est là qu'est partie l'idée de notre projet
pour, Flipper. Pourquoi le Flipper? Pourquoi pas un jeu vidéo? Pourquoi pas?
Alors, pourquoi le Flipper? Parce que le Babyfoot, ça existait déjà en VR. D'ailleurs, un très bon jeu, hein, Babyfoot VR, si vous avez l'occasion d'y jouer. Voilà. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? La pétanque, bon, c'est pas terrible en VR, je pense, c'est pas top. Après, on s'est dit quoi?
Le porno, c'était déjà pris.
Voilà, donc ça, bon, bah ça, bah de toute façon, moi, voilà, hein, je peux plus faire ça, hein, c'est fini. Je suis blacklisté, comme on dit. Je suis blacklisté derrière. Le Flipper, non, bah, on. En fait, je crois qu'on est, tous un peu de la même génération. Donc, c'est-à-dire qu'on a, 22 ans à peu près. Et quand on était au lycée, au lieu d'aller en maths, moi, j'allais jouer à Elvira. Voilà. Je passais ma vie dans les bars à essayer de claquer les flippers. Donc, on s'est dit, tiens, un flipper, c'est pas mal en réalité virtuelle. Alors, il y en avait déjà qui existaient hein, sur le marché. En VR notamment, mais avec les manettes, quoi. Donc c'est vrai qu'avec les manettes, on n'a pas cette sensation physique qu'on a quand on joue au vrai flipper. Donc on s'est dit, bah, on va essayer de faire un truc. On a eu cette idée au Salon du Bourget, donc ouais, en 2019. Et ce qui est marrant, c'est que cette année, on a loué un flipper au Salon du Bourget, une boîte, parce que ils avaient envie de s'amuser et de faire le buzz sur leur stand. Donc comme quoi, la boucle.
Un industriel de l'aéronautique.
Ouais, la boucle était bouclée. Voilà, donc voilà, c'est ça, quoi. C'est l'amour du flipper, quoi. Alors,
après, au niveau de la. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude de développer des applications immersives et souvent en réalité virtuelle. Bon, on est plutôt en solo. On a des contrôleurs, enfin des manettes, que nous on appelle des contrôleurs. Et c'est vrai que d'associer un support physique à une expérience VR. Sans qu'il y ait de contraintes qui soient simples d'utilisation, ça c'est un truc qu'on trouve hyper intéressant. Et c'est vrai que le flipper, qu'on a adoré quand même, on s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Du coup, on est parti sur un proto. Et trois mois après, on avait un proto, on avait testé un petit peu. Alors je ne sais plus le brochet quand est-ce que c'était, mais en fin d'année, on a pu présenter.
Trois jours après.
On a bossé un peu de manière intensive et on a pu vérifier que dans le gameplay ça fonctionnait, qu'il y avait un truc super sympa à faire.
Moi, du coup, j'ai une question là, par rapport à ça, parce que oui, il y avait déjà de la VR qui existait. Je pense même avant, tu devais avoir des expériences qui avaient déjà été poussées par Zen Studio, je pense notamment sur le PSVR ou des choses comme ça, qui te permettaient déjà de faire de la VR, mais avec la manette, comme tu disais Alex tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire un flipper au format flipper? Parce que si je dis ça, c'est qu'à côté, tu as eu pas mal de DIY qui ont été lancés avec des personnes qui se sont lancées dans la conception d'une caisse, mais une sorte de, je sais pas comment on peut appeler ça, mais de mini flipper en fait, une sorte de boîte finalement. Juste pour avoir la sensation, les boutons, etc., donc les contrôleurs, et avoir l'impression d'être sur un vrai flip, mais ils sont partis du principe que dans la mesure où tu as un casque sur la tête, tu n'as pas forcément besoin d'avoir la machine en entier. Qu'est-ce qui vous a motivé à repartir sur, et on le voit derrière d'ailleurs, Alex et Jerry, sur un flipper taille réelle qui ressemble à un flipper, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments d'un flipper, ou on va dire tous les éléments d'un pin cab plutôt, et pas simplement... Un matériel en fait qui simulerait l'impression du flipper.
En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est parce qu'au départ, nous, on s'est vraiment dit, il y a des trucs à faire pour l'événementiel. Donc pour les boîtes, pour les salons, les choses comme ça. Et en fait, l'événementiel, le premier coup d'œil sur l'objet est important. C'est-à-dire qu'on arrive et puis on voit un objet. Et puis nous, on voulait que de loin, on reconnaisse l'objet, c'est-à-dire, ah tiens, il y a un flipper là-bas, oui, mais c'est un flipper pas comme les autres. Alors, est-ce que c'est un flipper, est-ce que c'est un peu un flipper? Après, la question sera posée, j'imagine, mais en tout cas, on voulait vraiment pouvoir avoir l'objet en taille réelle et puis en forme réelle. Et surtout, pour l'événementiel, notre truc à nous, c'est le branding. C'est-à-dire que le flipper VR, on va pouvoir lui coller des stickers à la marque de Coca ou de je sais pas qui, alors je dis pas d'autres marques, mais... Voilà, et donc du coup, on a ce meuble qui est entièrement brandé avec le playfield, avec le back glass, brandé, etc. etc. Et La deuxième raison, c'est on voulait que contourner un peu ce problème de la réalité virtuelle où on est tout seul dans la réalité virtuelle, on a son casque et on est tout seul. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'on permet un peu aux gens qui sont autour de voir sur le playfield le jeu du joueur qui est dans le casque. Donc, évidemment, c'est un mode dégradé parce que on voit pas la 3D, on voit pas toutes ces choses-là, mais on peut quand même participer dans le sens regarder ces parties. Et donc, ça rejoint un peu moi et mes copains autour d'un flipper au bar, quoi. C'est-à-dire que mes copains qui me regardaient jouer parce que c'était moi le meilleur du monde, évidemment, les autres c'était nul. Et du coup, ça permet quand même autour de pouvoir,
de participer, rigoler, le joueur est moins isolé, quoi.
Ouais. Chambrer le gars, la fille, etc. Donc, c'était ça l'idée. Donc, du coup, on y a pensé. Hein. On s'est dit à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait juste une petite manette, un petit truc ? Est-ce qu'on fait un demi-flipper ? Et on a aussi, au début, songé à d'autres form factors, plus bornes d'arcade, des choses comme ça. Et puis finalement, les retours qu'on a eus et puis nos sentiments, notre sensation, c'est que finalement le meuble, ça marche plutôt pas mal. Et puis en fait, finalement, au départ, on partait sur cette idée de B2B, d'entreprise. Et puis maintenant que les particuliers s'intéressent au projet, il y a aussi la dimension pincable, quoi, c'est-à-dire compatibilité, quoi. Donc du coup, on rejoint un peu toutes les choses et ça donne un meuble de flipper.
Et on n'avait pas besoin d'expliquer les règles du jeu. Tout le monde connaît les règles du jeu du flipper. En voyant le meuble, ça suffisait, quoi.
Ce qui était assez amusant, c'est quand on a présenté notre POC, même pas un proto, un POC à Virtuality à Paris. Donc ça, c'était avant Covid.
Juste peut-être rappeler POC, pour ceux qui ne sont pas du milieu, c'est Proof of Concept.
Oui, pardon.
Tu prouves ton premier concept, c'est ta concept car que tu mets.
Exactement. En ligne. Et donc, on était venu avec un produit qui ressemble à un flipper, avec un jeu de flipper, avec de la réalité virtuelle, des écrans digitaux. Et ce qui a été assez hallucinant, je me souviens, on avait un roll-up où on avait mis parfois on voit qu'on ressort plus trop maintenant, mais où on avait la partie en forme board d'arcade, une version flipper. Parce qu'on s'est dit qu'il y aurait peut-être des variantes, comme disait Alex, dans nos premières réflexions. Mais la force, sur un stand, tu as une board d'arcade, tu joues un jeu de flipper à VR, ça n'a pas la même attractivité. Et aujourd'hui, justement, entre les tendances, tout ce qui est rétro gaming, et puis la communauté aussi, ce que peut être le flipper dans l'esprit des gens, on s'est dit que c'était hyper fort, hyper puissant, et on voulait garder le meuble. Et justement, quand on a la sensation, quand on joue, quand on le secoue, on voulait aussi retrouver au maximum le toucher, avoir le tire-bille, pouvoir le secouer, etc. Donc c'est pour ça que le meuble, pour nous, il nous paraissait important. Ça arrive sur des salons, on nous dit, c'est vrai qu'on ne peut pas l'avoir juste à avoir le cul du flipper, comme on dit, mais en fait, le meuble en lui-même, c'est carrément plus sympa, c'est plus attractif. Et nous, dans la réflexion initiale sur sur la cible un peu pro, il y a une surface de comme disait Alex, qu'on peut habiller, customiser. L'écran duo, il peut être aussi pour de la diffusion d'autres médias. Enfin, il y a plein de possibilités.
Oui, tout dépend de la cible. Hein. On est d'accord, parce que là, je vois que Patou nous dit, est-ce que vous comptez commercialiser, avant que vous répondiez, commercialiser une version plus petite, genre posable sur une table. On va y répondre tout de suite. Alors, il y a plein de choses à aborder. Est-ce qu'on répond tout de suite à la question de Patou, ou est-ce qu'on se la garde au risque de l'oublier à un moment donné, ou on y répond tout de suite ?
Parce que moi, ce qui m'a...
Ouais, vas-y, alors. Est-ce que vous comptez commercialiser une version plus petite, genre posable sur une table ?
Alors, on y a pensé. En fait, si tu veux, c'est un cheminement intéressant parce que, comme je disais au départ, on est parti pour faire du B2B, c'est-à-dire on veut vendre aux entreprises. C'était le départ. Donc, au départ, meubles flipper, intérêt des marques, etc. Et puis, plus ça va... Ça fait depuis après Covid, on va dire, depuis que les salons se sont relancés, etc. On fait essayer le flipper à des particuliers. Et puis,
on a des... Fred qui est ce soir.
Ah bah oui, Fred.
Tu veux faire la Fred... petite aparté.
Donc, ouais, c'est Pontac. Hein.
Ouais.
Oui, c'est Fred, ça, au salon Frédéric. De Pontac, oui.
Ouais, il nous a invité qui
On est à quelques kilomètres du salon de Pontac. Frédéric avait entendu parler de notre projet par une école de jeux vidéo locale. Il est venu tester et puis il nous a dit, votre produit, là, il faut que vous le présentiez à Pontac, quoi, au salon de Pontac.
Oui, parce qu'à la base, vous attendiez pas du tout, en fait, entre guillemets, à pénétrer, on va dire, les salons de flippers, de physique ou ce genre de choses. Vous étiez même un petit peu pas réticent, mais vous étiez dit qu'à l'accueil, on va avoir, en fait, on va se faire jeter des cailloux, quoi, en gros. Hein.
Ouais, exactement. En fait, on avait un peu peur de ça. C'est-à-dire que au départ, on n'a pas fait une machine pour les pinheads. On a fait une machine pour les gens qui veulent s'amuser de temps en temps et qui qui sont pas des fins connaisseurs, on va dire, ce qui n'empêche pas du tout de s'amuser. Mais c'était ça. Donc quand on s'est dit bon, on va faire tester ça à des joueurs de flippers au salon, on va se dire comment ça va se passer, quoi, le gameplay, le code, la profondeur du code, etc. Bon, ça va être compliqué. Puis les sensations physiques différentes, etc., etc. Donc bon, on s'est dit, bon, on va en prendre plein à la gueule, hein, clairement, au début. Et puis, en fait, non, curieusement, pas du tout. C'est comme quoi, on a quand même une communauté qui est quand même très, très bienveillante, hein, je tiens à le dire et à la remercier tout entière, la communauté. Une communauté bienveillante et donc, petit à petit, effectivement, pour revenir à la question, parce que là, on est en train de partir un peu n'importe où, pour revenir à la question, est-ce qu'on doit fabriquer quelque chose de plus petit ? Ça va sûrement venir. C'est peut-être pas forcément nos priorités dans la feuille de route là, mais ça va venir un jour ou l'autre parce que plus ça va, plus on se dit que le marché du particulier. Bah c'est pas nous qui nous disons d'ailleurs, c'est plutôt les gens qui nous disent. Qui nous disent voilà.
Moi, je me souviens quand je t'ai interviewé au festival de Pontac. L'objectif n'était pas du tout le particulier, hein, mais non. Alors pas du tout, du tout, du tout. Donc là, je remonte il y a maintenant 2 ans, c'était pas du tout l'objectif. Hein, voilà. Et Nico Flip, salut, comment tu vas ? Il nous dit essayez au rétroplay et c'était top. Oui, il y a aussi, effectivement, vous avez eu une présence sur plusieurs salons et vous avez eu à chaque fois un accueil chaleureux du public. Hein. Ça, c'est quand même une chose appréciable parce que c'est pas toujours évident. On sait que parfois la communauté peut être un peu réfractaire à du changement. Alors, et là, clairement, c'en est. Et,
vous on va dire, on a eu un bon accueil de 99,9% des.
Oui, il y en a toujours un ou deux. Excusez. Oui, voilà.
Ouais, je donnerai pas les noms. Hein,
mais... Ouais, non, mais ça, on sait.
c'était quand même une angoisse, pour avoir vécu aussi avec Laz quand vous étiez là au premier Pontac. Enfin, faut juste pour refaire une petite, pour la petite anecdote, c'est vrai que. Sur ce genre de salon-là, vous l'imaginez, tout se prépare la veille, globalement, là où tout le monde arrive. Et c'est vrai que moi, je me souviens être à Pontac, vous étiez dans votre coin, là, avec t'avais un kakémono, t'avais le flipper qui était posé comme ça, et on avait commencé un peu à discuter, vous angoissiez quand même vachement en mode, demain, c'est les pinettes qui arrivent, les mecs, ils mettent des bunes dans des flippers, ils vont arriver là-devant, ils vont dire, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça joue pas comme une vraie machine, etc. Ouais, et moi, je me souviens, je passais tout le long de la journée en disant, bon, alors, du coup, ça donne quoi? Et vous étiez en mode, mais c'est génial, tout le monde adore. Et même les gros férus en fait, du jeu bien hardcore, vous dites, c'est vachement intéressant, c'est bluffant. En fait, t'as un effet waouh sur ce genre de truc-là. Et quand t'es pas forcément habitué à la VR, tu l'as encore plus avec un objet que tu peux toucher, etc., où t'as vraiment l'impression de te dire, c'est le futur, quoi. Voilà, après, vous avez peut-être parlé des jeux.
Pour la petite anecdote, la veille de Pontac, ça marchait pas. On a quand même changé de PC à la dernière minute. Hein. Bon, ça c'est la petite anecdote. Il faut quand même
être courageux. L'anecdote, c'est que effectivement, le soir en fait où vous avez installé votre machine, vous nous l'avez fait essayer avant que le salon ouvre, et en fait vous aviez un écartement de batteur digne d'un Ghostbusters, c'est-à-dire en fait un peu vachard. Ouais. Et en fait, on vous avait fait la réflexion, et nous on avait halluciné le lendemain parce que le lendemain en fait c'est que de la prog. Donc en fait votre flipper c'était une nouvelle machine.
Ouais. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était quand même à 2h du mat. Quand on était tous déjà à moitié torchés en train de jouer sur les flips, tu les voyais en train de commencer à faire du dev, il y avait le clavier qui était sorti, et tu dis qu'est-ce que vous foutez, on est en train de changer les batteurs, on réduit la taille des slingshots, c'est-à-dire qu'en fait ils étaient déjà dans la logique du location test où tu fais finalement un taf de dev en fait, tu fais ta bêta et puis du coup t'es en train de faire une V2 où tu fais ta nouvelle mise en production, bam, tu renvoies et puis t'as une nouvelle version en fait qui est dispo le lendemain, quoi. C'est la force de la partie virtuelle.
Je vais répondre à vos questions. Vous inquiétez pas, je les vois défiler dans le chat. On va y aller. On va commencer par votre sainteté qui demande une question qui était un peu plus haut parce que tu parlais de branding tout à l'heure. Donc, quand tu parlais de branding, c'est quoi votre prestation ? Parce que c'est hyper intéressant ce qu'il pose comme question parce qu'en fait, c'est exactement votre cœur de métier. Vous amenez un flipper VR sur les veines personnalisé au branding. C'est-à-dire que les gens qui ne comprennent pas ce que veut dire branding, ça veut tout simplement dire qu'ils vont sticker, c'est-à-dire qu'ils vont refaire les décals de caisse et ils vont mettre en gros la machine aux couleurs de l'entreprise. Et puis, il va y avoir un jeu qui va tourner à l'intérieur. Mais là, c'est-à-dire c'est du stickers, mais également, est-ce que vous pouvez faire un jeu et la réponse est
oui.
Oui, parce que vous l'avez déjà fait. Ouais. Voilà, ouais. Vous l'avez déjà fait. Et c'est ça, c'est quand même puissant. C'est-à-dire que on peut dire l'entreprise ou pas?
Oui,
elle a été citée tout à l'heure.
Ah oui, d'accord.
On a fait un flipper pour EDF sur l'hydroélectricité.
Voilà, donc vous avez fait une table spécialement pour ça, et ça c'était génial.
Alors, aujourd'hui, en fait, en termes de personnalisation, c'est vrai qu'il y a le meuble en lui-même. Bon, là, c'est du stickers, on va dire, ce que les boîtes ont l'habitude de faire. Après, c'est vrai que la plus-value de notre produit, c'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je m'appelle EDF, enfin, je ne sais pas si il faut dire les marques ou pas, mais je suis un grand groupe, je veux me payer un flipper, je parle mécanique, personne ne le fait. Ouais. Il y a peut-être quelques artistes, mais... Donc, merci à la main. C'est vrai que ça, c'est compliqué. Aujourd'hui, on peut offrir, même pour une petite société, ça peut être pour une PME, etc., d'avoir un flipper marketé donc à sa marque, mais surtout d'avoir un jeu personnalisé lié à la thématique. Demain, s'il faut faire un flipper sur du tri sélectif, on fait un flipper sur du tri sélectif. Demain, si c'est pour telle ou telle thématique, dans l'univers du sport. Donc, le champ, il est hyper large. Et aujourd'hui, c'est vrai que sur l'événementiel, la VR, ça existe depuis un certain nombre d'années, même si on fait encore découvrir la VR à des gens qui ne connaissent pas en 2023, mais n'empêche, des boîtes qui font des expériences immersives, il y en a. Aujourd'hui, c'est un produit, et c'est ce qui avait vachement plu quand, la première fois qu'on avait présenté le POC, parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises, et que ce soit dans des circuits de visite pour des musées, que ce soit sur des espaces d'attente, des espaces de jeu, enfin, il y avait plein de possibilités. Et sur un nouveau produit qui a une forte attractivité, et qui pourrait être hyper sympa. Donc, ça nous a mené sur... après, je ne sais pas si on peut nommer.
Si, tu peux.
Je ne sais pas. Mais oui, on a vu des accroches sur des boîtes. Ben, je me souviens, les aéroports de Paris, ils voulaient prendre celui qu'on avait sur le stand, quoi. Notre
c'est photo. Génial. Mais c'est génial.
On avait des divisions digitales de choses comme la SNCF, de l'événement, des boîtes qui géraient Sephora, le musée d'histoire naturelle. On avait plein de boîtes comme ça. Et là, on s'est dit... Il y a vraiment un truc à faire sur le côté pro. Et c'est vrai qu'après l'épisode de Pontac, on a découvert toute la communauté, parce qu'on ne l'avait jamais fait jouer à des joueurs de flipper. Et c'est là où on s'est dit, ça peut intéresser le particulier. Et justement, notre objectif, ça a été de travailler un produit un peu clé en main pour pouvoir se faire plaisir à avoir un outil polyvalent au-delà de flipper VR avec la compatibilité sur d'autres écosystèmes.
Alors là, tu es déjà apparemment un client parce que notre Saint-Père, lui, pour le bruit en salle de pause, le pinball VR, c'est top. Et rapport de l'innovation aussi, je vais m'occuper de ça avec ma boîte, on va causer. Pour les gens qui ne l'auraient pas compris, le flipper VR, c'est la machine que l'on voit derrière vous, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais celle qui est derrière vous, bien évidemment, c'est ça.
J'en ai déjà dit, mais vu que tu ne m'écoutes pas...
Pardon, vous êtes qui vous déjà? Qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu de la lumière? Excuse-moi. J'ai pas entendu. Je devais être en train de faire autre chose. Donc toutes mes confuses, c'est ma faute. C'est le flipper qui est juste derrière. Est-ce que
la question de Benoît là tout à l'heure sur le moteur.
Ouais, c'est ce que je voulais dire. Avant qu'on passe à autre chose, c'est intéressant. Benoît demande la technologie derrière. Est-ce que c'est du Unity, du Unreal Engine ou un moteur maison ou whatever?
C'est, on a développé un écosystème sur Unity, mais tout le code est maison.
Vous savez que vous me perdez. Hein. Sur moi pour. Alors moi, en fait, je pense qu'en fait le XLR faut le mettre sur le spicon parce que le RCA, sinon il va foutre la merde. Moi c'est le max. Hein. Là je suis au max du max les gars. Donc dès que vous parlez technique, je hoche la tête.
Juste pour ceux qui connaissent pas, aujourd'hui on va dire dans l'univers du jeu vidéo, il y a deux éditeurs assez connus, c'est-à-dire deux logiciels. Il y a Unreal Engine. Et il y a Unity. Ça, c'est, on va dire, c'est les gros leaders. Et nous, on a fait donc le développement de nos outils sur Unity, Unity 3D.
Précise, c'est des moteurs, en fait, Unity et Unreal Engine.
On va écrire le code dessus, on va aller récupérer des assets, des modules, on va faire de la programmation directement sur ce moteur graphique. Alors,
nous, on a lancé le Flipper VR Engine, donc on est sur base Unity. Mais comme dit Eric, par contre, c'est vrai que le code est écrit par nous. Quoi. On n'a pas été chercher du code existant et on ne l'a pas plaqué sur quelque chose. Donc, c'est un gros avantage parce que ça veut dire qu'on... Bah déjà, on est garant de notre code. Et puis, on fabrique en fait ce framework pour pouvoir justement créer des nouvelles tables plus facilement, intégrer des choses spécifiques au Flipper. Je pensais par exemple au Nudge, à toutes ces choses-là qu'on a fait, et puis les problématiques qu'on a de tracking du casque, etc. etc. Donc tout ça, c'est maison. Et ça, c'est intéressant parce que, comme on dit chez les Américains, c'est l'IP, quoi. C'est l'IP de Flipper VR, c'est la propriété intellectuelle, on va dire. Donc, c'est intéressant. Et ça, bah, c'est les codeurs du côté de chez Eric et Sébastien. Donc, c'est pour ça qu'on, quand on dit que toute l'équipe n'est pas là, ben, l'équipe, c'est les gens qui codent derrière.
Qui modélisent.
qui modélise la 3D, qui code, qui fabrique l'environnement.
Donc vous êtes combien en tout ?
Chez nous, on est 7.
7 en tout.
Avec Alex.
Ok.
Alors nous, on est une société, donc on est 7 personnes. Après, sur la partie Flipper VR, ben, c'est vrai qu'entre la partie créative, la modélisation, le développement, voilà, on va dire qu'on participe un peu tous au projet. Voilà. Les jours se prennent la tête sur Unity.
Donc, c'est français, hein. C'est français.
C'est français, monsieur.
C'est français, monsieur. C'est bon comme du jambon. Et donc, voilà. Donc, c'est important parce que, bah, mine de rien, l'écosystème Flipper, ouais, bah, c'est plutôt américain quand même. Et puis, bah, on fait un truc made in France et on a été le premier au monde à sortir la solution telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est Made in France, on est plutôt fiers de ça. Alors il y a d'autres solutions, hein, qui existent, évidemment, des pincab VR, des choses comme ça, ça existe, hein, mais la particularité de notre solution, c'est que comme on est propriétaire du code et que c'est notable, bah, on peut monétiser. C'est-à-dire on va installer le Flipper dans un endroit qui est par exemple une salle d'arcade VR, et on va pouvoir, ils vont pouvoir monétiser la machine, ce qui n'est pas le cas de VPX.
Alors,
etc. Ouais, ça c'est important, c'est du coup sur la partie monétisation, ouais. Pardon, je t'ai coupé l'herbe sous le pied, là.
Vas-y.
Mais sur la partie monétisation, il faut bien comprendre, et là vous m'arrêtez si j'ai une bêtise, qu'à partir du moment où tu sors ce genre de machine et que tu fais tourner, parce que là encore une fois, arrêtez-moi si j'ai une bêtise, mais on peut aussi faire tourner des tables propriétaire autre, c'est-à-dire typiquement, j'imagine, du Zen, potentiellement peut-être des tables Gottlieb aussi qu'on peut avoir sur du pinball arcade ou autre. Mais à partir du moment où tu veux mettre ce type de machine-là dans un endroit public et monétisé, bah, tu es confronté au fait que le code que tu vas faire tourner sur la machine ne t'appartient pas. C'est un peu le même principe que mettre une borne d'arcade générique dans une salle de jeu et puis mettre une carte JAMA chinoise avec 150 jeux piratés dessus. C'est bien joli, mais c'est pas légal. Donc j'imagine qu'il y avait quand même une vocation à un moment quand tu veux faire du B2B de te dire bah, je vais être propriétaire de ce que je veux potentiellement pouvoir vendre et pas me mettre dans la merdouille là-dessus.
Quand on fait du B2B, on ne peut pas faire les malins, quoi. C'est-à-dire on ne va pas commencer à tricher et à vendre un produit qui ne nous appartient pas. Ça c'est quand même hyper important et quand je dis produit, c'est l'ensemble, hein. C'est-à-dire la caisse qui est décalquée d'une certaine façon. Par exemple, on ne va pas mettre Spider-Man sur la caisse de Flipper VR, hein. Désolé les gars.
Voilà, on va mettre. Je prépare juste la. Voilà, je sais là. Ceux qui nous regardent en live, je sais. Je prépare juste les commentaires qu'on va se taper, les sons de merde qu'on va se taper dans la gueule juste après. Donc, on est bien d'accord qu'on va mettre effectivement les pieds un peu dans le plat ce soir parce que on va parler de propriété intellectuelle et ça va faire grincer des dents pas mal de gens parce qu'il y a des pratiques dans le milieu. Qui conviennent à certaines personnes, mais qui en réalité sont complètement illégales et complètement dégueulasses, hein, pour ceux qui créent. Exemple, hein, quand on pompe les designs de Zombie Yeti, de Christopher Frenchy et compagnie, pour pouvoir foutre ça en fait, hein, et faire du pognon sur le dos des gens, voilà, ça s'appelle du vol de propriété intellectuelle. Et ça, c'est pas quelque chose que nous, effectivement, on encourage, ni même qu'on soutient, hein, clairement. Donc, vous êtes clairement dans ce cas-là où vous voulez faire les choses proprement. On est bien d'accord que là, la propriété intellectuelle, pour vous, c'est un gros morceau. Et je te laisse continuer juste là-dessus. Hein.
Juste, Alex, une petite aparté. Après, c'est lié aussi à notre culture. Nous, on accompagne depuis 17 ans des sociétés liées à des problématiques de communication, etc. Et c'est vrai que nous, on a toujours essayé d'éduquer un petit peu nos clients sur la propriété intellectuelle, le droit de création, etc. etc. Le fait de parler pour payer l'image.
Attendez, je me permets juste de te couper. Il doit y en avoir un d'entre vous, je soupçonne Alex, tu dois taper avec ton doigt sur le bureau.
Ah, pardon.
Et voilà, et ça fait cloum 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 dans le micro. Voilà, vas-y. Excuse-moi, Seb, vas-y.
Non, c'est juste l'aparté, voilà, que nous, on a toujours, qu'un client m'a dit, ouais, tiens, on va prendre cette image, Non, s'il y a des droits et tout ça, donc là, on essaie d'éduquer. Et oui, avec Flipperverse, c'est évident qu'on n'allait pas faire d'écart. C'est sûr que demain, je vais sur un salon et comme disait Alex, on met un sticker Marvel et on va vendre 10 fois plus. Mais non, il y a des licences et voilà.
Ouais, ne vous y trompez pas, les petits gars, c'est plus dur. Du coup, hein, c'est pas le chemin le plus simple parce que effectivement, il faut créer déjà. Donc, le processus de création, c'est essentiel, c'est important. Alors, c'est valorisant aussi hein, pour les graphistes, etc., hein, de faire toutes ces choses-là. Du coup, c'est notre propriété. Donc ça, on y tient. Après, il y a le problème du licensing. Nous, on adorerait avoir un peu de sous pour acheter des licences, pour pouvoir justement faire des flippers. Alors ça, dans le futur, on espère pouvoir le faire, hein, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, il faut créer sa propre table avec son propre design, son propre personnage, etc. etc. Je dis ça en pensant par exemple à Exapinball, hein, qui a le même ADN. C'est-à-dire, ils ont fait un produit... ils ont créé quelque chose, du graphisme, des personnages, et d'ailleurs, ils sont vachement forts sur la partie animation, etc. Ils ont fait des super trucs. Et c'est beaucoup plus dur, évidemment, que d'aller piocher chez des Disney.
C'est d'ailleurs ce qui leur a été reproché.
C'est plus dur.
Ouais, mais en fait, reprocher, alors oui, quand on ne connaît pas un peu comment ça fonctionne, oui, d'accord, mais de toute façon, il y a deux possibilités aujourd'hui pour copier des choses. Il y a l'hommage. C'est-à-dire qu'on peut rendre hommage à un artiste et du coup utiliser son œuvre, c'est un hommage, ou alors faire de la satire. C'est les deux seules possibilités pour lesquelles tu peux récupérer des choses, et bien sûr avec l'accord hein, de l'ayant droit, évidemment.
Bien sûr.
Et voilà, donc c'est les deux seules. Après, tous ceux qui vous vendent des stickers, des bornes d'arcade, des trucs comme ça, et surtout, je parle de graphisme, hein, je parle d'emballage, c'est vrai que moi, si j'avais un business qui était uniquement basé sur la copie et la revente de la copie, je serais un peu nerveux, quoi. C'est-à-dire que je me dirais, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, parce que à force de faire le malin, il y en a bien qui va s'apercevoir le jour où... Disney met son nez là-dedans, ça va faire fermer pas mal de boîtes, donc c'est dommage. Alors après, voilà, il faut être sérieux, il faut essayer de respecter tout ça, et avant tout, la première chose, c'est respecter la création, c'est-à-dire.
Mais c'est surtout voilà. Ça. Moi, il y a un truc en dehors de même de pas vu pas pris, parce que clairement, les Français qui font ça sont clairement sur un jeu de pas vu pas pris. Oh, puis de toute manière, c'est pas de ma faute, je fais pas bien mal. De manière, si les fabricants le faisaient, c'est parce que je pallie à un manque d'idées des fabricants de machin, de blablabla. Ils vont se trouver toutes les excuses possibles et imaginables pour en fait valider leur démarche de voleur, parce que c'est clairement du vol. Et ce qui me fait un peu plus marrer là-dedans, c'est que on ferait ça à ces mêmes gens, les mecs, ils seraient les premiers à grimper au créneau et à dire c'est dégueulasse, vous vous rendez compte, on nous a piqué notre boulot, parce qu'une fois de plus, la création graphique, c'est du boulot. C'est pas juste un simple métier d'IA, voilà. Et un autre truc qui est dérangeant pour moi aussi là-dedans, c'est d'une certaine manière la tromperie que les gens peuvent avoir, conscient ou pas. C'est-à-dire que acheter un flipper ou un truc brandé Spider-Man, normalement, entre guillemets, ça a plus ou moins une valeur. Là, en fait, ça n'en a pas. Ça joue sur une pseudo-valeur. C'est ce qui permet de vendre. Mais en réalité, tu t'achètes une copie, et même pas légale, et c'est même pas une copie d'un vrai truc qui existe. Donc, c'est vraiment pas... en fait, pour moi, les gens se font également avoir. Ils vont dire, ouais, mais je préfère ça, en fait, à un autre design. Très bien, c'est ton choix, et je l'entends. Ça n'en reste pas moins du vol. C'est ça qui est important. Et c'est effectivement plus compliqué. On a fait le reproche avec Exapinball de ne pas avoir pris de licence, etc. J'ai envie de dire, les gars, si vous avez tant de pognon, sortez les pognons pour acheter de la licence, et puis on verra bien. Et puis surtout, une fois de plus, ils n'ont pas à rougir. Moi, j'ai été vraiment surpris par la qualité des animations. C'est vraiment sympa. Et c'est toujours plus facile de frauder que de faire les choses dans les règles. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, du coup, vas-y, Sylvain.
Non, j'allais dire, pour revenir, Alex, tu disais tout à l'heure, vous êtes parti from scratch, vous avez tout créé, à la fois la partie design, mais aussi la partie code et autres. Si on parle justement un peu de conception, depuis le début, c'est quoi les écueils, les difficultés que vous avez rencontrées majeures sur la création d'un produit comme ça? Parce qu'encore une fois, vous arrivez sur un marché où il n'y a rien, c'est quand même couillu de se dire on va lancer une nouvelle machine, un nouveau concept en partant de rien du tout, encore plus en partant sans la communauté Flipper à côté, parce qu'on le répète encore une fois, quand vous êtes arrivé, vous aviez déjà un produit qui était fonctionnel, on avait déjà passé l'étape du POC, sur lequel vous n'aviez pas forcément demandé, entre guillemets, je ne vais pas dire l'avis, mais des retours de la communauté du Flipper. Donc c'est quoi finalement les grosses difficultés que vous avez eues dans la conception, ou peut-être des difficultés que vous rencontrez encore aujourd'hui?
Dans la conception, peut-être ce qui nous a posé le plus de difficultés, c'était peut-être la notion de tracking, c'est-à-dire le fait que quand on voit le Flipper en réel et le virtuel, que l'image soit vraiment stable et bien positionnée sur son jumeau numérique, quoi.
En gros, qu'elle suive le mouvement quand tu voilà. Fais ça, qu'on est en train de dire
la latence et la physique aussi, qui est vraiment du complexe.
Mais ça faisait partie quand même des critères dès le début du projet. C'est-à-dire, c'est des contraintes, mais si ces points-là, je veux dire, si on joue au Flipper qu'il y a la latence, c'était même pas la peine. Ouais. Et d'ailleurs, ouais. je reviens sur Pontac, mais ce qui est amusant, c'est que il y a tous les gens qui étaient tous ces joueurs qui ont l'habitude du mécanique, qui peut-être avaient déjà essayé du pin-cab, en se disant, moi, le digital, ça m'intéresse pas, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai Flipper. Et dès qu'ils testaient la VR, c'était sympa. Et c'est vrai que le côté latence, déjà des boutons, enfin des batteurs, c'est la base. Donc ça a été le truc de départ sur lequel on s'est bien pris la tête. Et pour arriver à un truc qui était plutôt pas mal. Donc ça a été un truc important. Et après, oui.
Mais c'est ce que les joueurs ont regardé en premier. Enfin, moi, je me souviens la première fois, premier truc que j'ai dit, c'est je veux voir la latence de ce truc. Parce que sur des pin-cab, pouvoir tester moult pin-cab, t'as souvent justement cet écueil-là. Et moi, c'est un truc qui me gonfle, c'est que ça se joue en millisecondes. Mais ça suffit, en fait, quand t'es habitué à un vrai flip, à dire, putain, ça te bute l'expérience de jeu. Et c'est vrai qu'on le ressentait pas, et on le ressent toujours pas, d'ailleurs, c'est un bon point, et on sent que vous aviez quand même pas mal bossé là-dessus, quand même.
La latence des batteurs, mais aussi tout ce qui est fluidité du jeu, quoi, de la bille, ça c'est...
Juste pour information, aujourd'hui, Flipper VR, on va gérer un écran, donc sur le playfield.
4K.
Voilà, 4K. Donc déjà, quand vous avez un PC, vous savez que je joue aux jeux vidéo, déjà quand on a un écran 4K, on sait que ça prend plus de ressources. Donc le défi, c'était aussi avoir un produit qui soit fluide et sur l'ensemble de ces écrans. Donc dans le casque, ça a toujours bien marché dès le début. Mais après, c'est vrai que le playfield, on le sait, avec les fréquences d'écran, etc. Donc ça, on a pu travailler, mais c'est vrai que ça nécessitait d'avoir quand même des grosses machines, bonnes configs. Et sinon, l'expérience, elle est ratée. S'il y a de la micro-latence, si le truc, ça ne sert à rien.
On m'a déjà fait essayer certains pin-cabs. C'était vraiment le truc qui me freinait. C'est vraiment cette latence. Alors, il y a des gens qui disent, bon, on arrive à s'y faire. Moi, perso, j'ai vachement de mal. Mais effectivement, ça, c'est un truc sur lequel j'avais été impressionné. C'est quand même que vous... Vous n'avez rien, de mon point de vue, vous n'avez rien à envier, d'une certaine manière, à Zen Pinball au niveau de la physique de la bille ou au niveau du latence ou ce genre de choses. C'est ça qui est quand même assez... Moi, c'est ce qui m'a bluffé quand j'ai joué la première fois, en fait, au Flipper VR, en dehors de tout l'aspect virtuel, etc., qui est vachement bien géré, et d'ailleurs qui est même un petit peu déroutant, parce qu'on est dans le VR, mais on touche une vraie machine, donc on a quand même les sensations vraiment haptiques, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, et c'est vraiment impressionnant. Donc bravo, en tout cas, sur la physique de la bille et sur la réactivité des batteurs, moi je trouve ça assez impressionnant.
Ouais, vous parliez tout à l'heure de finalement la config, et le fait qu'il fallait gérer un écran 4K, etc. Enfin, il y a quand même du matos, hein. Encore une fois, on le voit derrière, et le Flipper est plutôt en fond, mais on se rend quand même bien compte qu'il y a quand même un paquet d'écrans, puis encore une fois, la définition de l'image, que ce soit celle qui doit être gérée dans le casque, plus celle qui est gérée sur l'écran, etc. On peut parler un peu configuration, ou c'est vous préférez pas vous attarder sur le sujet et c'est secret?
Non, après, c'est la carte graphique qui va être très importante.
Alors, si on peut parler un petit peu, au début, quand on avait fait notre POC, je vous parle de la période de Virtuality, au début, on tournait avec une des 280, je crois.
Oui, peut-être.
Et aujourd'hui, oui, on est plus sur des les cartes graphiques un peu dernière génération.
470, on va dire.
Et du coup, question complémentaire à ça, est-ce que ce n'est pas trop difficile, encore une fois, de suivre l'évolution technologique? Parce que le risque, finalement, de partir sur un produit comme ça, un flipper physique, c'est un flipper physique. Il y a beau avoir des évolutions, des toys, etc. Vous êtes moins lié à la technologie que sur un flipper, qu'un pin-cap déjà, et puis encore plus sur un flipper virtuel, où finalement, les casques évoluent. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la machine physique, mais aussi le casque. Je pense que vous allez en parler, là, je vois qu'il y a un exemplaire dessus. Donc, tout ça évolue finalement très vite. Est-ce que vous, derrière, ça vous apporte pas des contraintes complémentaires de se dire, finalement, le flipper VR de la V2 qui a un an, il est déjà obsolète par rapport au matos qu'on trouve sur le marché. Donc, vite, il faut qu'on se mette à un flipper V3 avec le nouveau casque, la nouvelle config, etc. Enfin, comment vous le gérez, ça, tout ça, aujourd'hui?
Alors, après, c'est du device qui est autour de notre moteur.
Ouais.
Flipper VR Engine, c'est à la fois quelque chose qui peut être polyvalent pour X supports. On peut adapter notre framework pour un jeu mobile, pour un jeu PC, pour de la réalité augmentée, pour différents supports.
Là aujourd'hui,
c'est une base.
Ouais. Ce casque-là, demain il y a un nouveau casque qui sort, on doit le tester sur un Quest Link. Pour nous, c'est pas un souci. Bon, après il y a des contraintes en exploitation et tout ça, et ils ont tous des caractéristiques. Mais aujourd'hui, c'est pas trop le souci de passer un casque à l'autre. La problématique, en effet, c'est l'obsolescence des casques, c'est-à-dire que nous, c'est arrivé sur des projets, là je ne parle pas du flipper, mais sur d'autres expériences immersives, il y a un client, il a des besoins, on réfléchit à un projet, on développe une appli avec la 3D réelle et on lui préconise un casque dans le devis, on fait le truc en prod, on finit l'appli, au moment d'acheter les casques, ce qu'on avait mis dans le devis il y a 6 mois ou il y a 3 mois,
c'est plus d'actualité.
Voilà. Là, pour info, on va aborder la troisième génération de casques.
En deux ans ?
Depuis 2019, donc en 4 ans, on va attaquer le Quest 3. Ça, c'est une petite news qu'on donne maintenant, parce que le Quest 3 est sorti au mois de septembre. Et donc là, on va pouvoir bientôt, je pense, proposer le Quest 3 en compatibilité sur la machine, ce qui ouvre des perspectives intéressantes parce que le Quest 3, il commence à être plutôt pas mal pour la réalité mixte. C'est-à-dire qu'on va faire à la fois de la VR dedans, donc on va être complètement fermé dans un monde VR. Et puis le casque permet aussi d'avoir la réalité augmentée. Donc du coup, ça veut dire ça nous donne des idées. Alors, c'est pas encore, on n'a pas de projet précis, mais ça nous donne des idées pour pourquoi pas amener de la réalité augmentée sur du flipper, pour le coup du flipper réel. On en parlait tout à l'heure, donc ça donne des perspectives intéressantes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les casques s'améliorent, donc ça veut dire que la qualité visuelle dans le casque s'améliore. Et comme disaient Eric et Sébastien, comme nous, on est propriétaire du code. En fait, on n'a pas de difficulté à changer et à modifier le code, vu que c'est le nôtre. Donc ça, c'est plutôt...
C'est un avantage.
C'est plus intéressant, parce que si on avait acheté un code tout fait, qu'il fallait le modifier à chaque fois qu'il y a un nouveau casque qui sort, ce serait compliqué. Donc, ça évolue bien. Et du coup, nous, ça ne nous bloque pas. Après, ce qui est bien, c'est que ça évolue dans le sens des prix aussi. C'est de plus en plus abordable, donc... Sur le marché du particulier, c'est important de pouvoir proposer des tarifs abordables. Quoi. Voilà.
Ouais. Alors justement, au niveau tarif, on va répondre à ta question, pas tout, mais là je vois aussi un truc qui est pas mal, parce que les gars sont en train de parler de la table Tagada, etc. Pareil, là, iTunes vient de faire un truc, moi je trouverais que ce serait une très bonne idée, un Space Hunt en réalité augmentée, vous y avez pensé avec Exa ou pas?
C'est une bonne idée.
Ils ont pensé, ils ont commencé à réfléchir, pas forcément à réalité augmentée, mais il y a des interactions en tout cas avec nos projets.
Serait génial, ça serait top.
Converger,
On discute avec eux et puis on a la même philosophie.
Ouais, ils sont top.
Je pense qu'il va se passer des trucs. Puis il faudrait, parce que plus on est nombreux, plus on est fort. Ouais. Donc il va se passer des trucs, c'est certain. Les deux mondes, de toute façon, le monde numérique et le monde physique, à un moment donné, ils ne vont pas forcément se rejoindre, mais ils vont s'entrecroiser. Donc ça se voit un peu sur les, sur les sternes, hein, avec Insider et tout. On commence à voir arriver des choses qu'on n'avait pas avant, avec des plateformes, avec des possibilités de jeux en ligne, etc. etc. Donc ça rejoint ce qu'on fait. Nous on est, c'est vrai que c'est un aspect qu'on essaie de développer aussi pas mal, c'est la partie jeux en ligne. Là, je vois des questions sur le Tagada. Flipper contre flipper en ligne ou en local.
Écoutez, je vais proposer à ce moment-là, les gars, vas-y mon grand, vas-y. Je vous propose, on va passer sur une autre petite vue, parce que là, pour les gens qui ne nous voient pas, il y a des certains pinheads donc qui vont qui parlent des tables, etc. Et puis on va vous montrer à quoi ça ressemble. On va reparler du prix, hein, parce qu'on nous a demandé les prix. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir nous donner les prix, tout ça? Ça va être
c'est sur le site.
Ok, ouais. C'est sur le site. Eh ben, on va y revenir. On va tout de suite regarder. Alors, j'espère que le son sera pas trop fort. S'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le dire. On va commencer par la table Tagada, justement. Alors, qui est une table un peu à part. On va vous mettre le petit teaser et puis vous nous expliquerez tout ça après.
On entend les gars.
Ah, désolé, on a une petite coupure de son.
On vous entend. Pas de problème.
Alors. Là, ça, c'est le petit teaser. On peut peut-être préciser une chose, c'est que ce n'est pas la table, on va dire, en termes de fourniture de gameplay ou d'innovation la plus aboutie. La simple et bonne raison qu'en fait, le but de cette table, ce n'est pas forcément ça, mais c'est de remporter la course de chevaux qui est juste au-dessus parce que vous linkez en fait deux flippers VR. C'est bien ça?
C'est ça. On peut linker deux flippers. Et en fait, l'idée, effectivement, ça... Là, c'est pareil, c'est un... Une table qu'on a présentée, c'est un POC, qu'on a présenté, je ne sais plus dans quel salon d'ailleurs.
C'était Pontac, mais cette année.
C'était Pontac cette année. Et du coup, là, c'était comment faire pour mettre deux flippers connectés et puis jouer. Là, c'est l'un contre l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir annuler les points de notre adversaire, en gros, pour faire avancer le cheval plus ou moins vite de notre côté. C'est basé un peu sur les jeux qu'il y avait dans les foires. Hein. On lançait des boules et puis les chevaux, ils avançaient. Donc là, c'est le même principe, sauf que c'est avec les parties de flipper qu'on fait avancer le cheval. Alors effectivement, comme tu disais, la table, elle n'est pas ouf en termes de profondeur de jeu, mais ce qui est amusant, là, c'est de pouvoir jouer l'un contre l'autre. C'est ça qui fait le...
J'ai joué, c'est vraiment fun.
C'est ça qui fait le truc. Et c'est surtout techniquement ça nous a permis d'avancer pas mal sur ce sujet de entre guillemets de e-sport finalement hein, parce que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est que on puisse organiser des tournois entre joueurs sur des tables de ce type là, c'est-à-dire des tables communes finalement sur lesquelles on va pouvoir faire soit du PVP soit de la COP en flipper quoi, voilà, tout simplement. Donc c'est un peu une des choses dans le calendrier quoi qu'on va développer, je pense. Je vous laisse continuer à parler de ça, les gars.
Oui, alors déjà il y a une dimension. Jerry, tu voulais ajouter un truc.
Non, enfin pour nous c'est quelque chose de très important quelque part de retrouver le côté je joue à plusieurs autour du flipper. C'est vrai que quand on met le casque en réalité virtuelle. Ben, on est complètement immergé, mais le côté multiple se passe surtout à l'extérieur du flipper, avec les gens qui sont autour et qui vont regarder ce qui se passe sur les retours écrans. Là, l'idée, c'était d'aller quelque part un peu plus loin et de faire en sorte qu'on soit plusieurs en simultané
à jouer ensemble.
Et puis, on a, vous l'avez bien compris, notre ADN, c'est, on aime bien innover, se lancer aussi sur des nouveaux concepts. Et pour nous, c'est important, le côté multi, de tester un petit peu, bah, voilà, ça fonctionnait, en termes de dev, ce que ça représente, quelles sont les perspectives pour ça. Et le but de Tagada présenté à Pontac, c'était ça, c'était de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut sortir, etc. Et bah, là, pareil, les retours ont été hyper positifs. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. On se croyait, c'est un peu les fils de queue à Disney. Non, ça a bien marché. Et puis les gens ont pris du plaisir. Donc après, oui, comme tu disais, il n'y a pas de rampe. On n'a pas travaillé vraiment un gros gameplay. L'idée, c'était de pouvoir s'affronter sur une partie qui dure, c'est, je sais plus, 3-4 minutes, et de prendre du plaisir. Et ça fonctionnait pas mal.
Ça
permet de montrer les perspectives demain, que ce soit, bon, là, c'était du réseau local, demain, ça peut être du réseau en ligne. Donc, nous, ça, voilà, ça, c'est vraiment des gros sujets pour nous.
En dehors de la, j'ai envie de dire, de la cosmétique ou de la profondeur de code, comme on l'évoquait, avant tout, vous, vos défis sont techniques. C'est de voir si ça fonctionne, voir comment on peut linker les machines et voir quelles sont les possibilités de développement derrière. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, l'aboutissement d'une table n'est pas forcément au tout départ de faire la table, on va dire, avec la profondeur de code de folie. Parce que déjà, l'idée est déjà de techniquement relever tous les défis techniques les uns après les autres. On est d'accord.
Ouais, il y a une question intéressante là, sur le chat, là, sur la gerbouille.
Ouais, la gerbouille, j'allais y venir. Personnellement, moi, ça ne m'a pas du tout foutu la gerbe pour une simple et bonne raison, c'est que en fait, ce que vous regardez, alors déjà, vous êtes fixe. Vous tenez votre machine, en fait, ça vous permet d'avoir un repère au niveau sensoriel. Donc, votre oreille interne, en fait, comprend bien où vous êtes et ce que vous faites. Et comme vous n'êtes pas dans un univers de style FPS où vous devez vous balader dans... Voilà, et ben, on n'a pas du... Enfin, pour moi, je n'ai pas du tout ressenti ça. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que les joueurs ont ressenti.
Ouais, bah, ce qu'il faut bien comprendre, hein, sur les problématiques liées à la VR, encore une fois, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'en gros, ce qui va poser problème, c'est la dissociation que tu vas avoir entre ce que tu vas visuellement... voir est-ce que ton cerveau va interpréter. Je prends l'exemple tout bête, tu fais de la VR et tu joues à un jeu de voiture avec une manette, t'as à peu près 9 chances sur 10 d'avoir la nausée, pour la bonne et simple raison que si tu t'amuses pas à bouger, à tourner, à faire comme si t'avais un volant et à reproduire les mouvements, ton cerveau il va être complètement déconnecté, il se dit il y a un truc qui bouge, je vois quelque chose qui bouge et en fait mon corps ne bouge pas. Et c'est ça qui en fait généralement finit par te mettre la nausée. C'est le même principe si vous jouez à de la VR sur des parcs d'attractions. Ça, c'est quasiment 10 sur 10, vous avez la gerboulade au bout de 2 secondes, parce que jamais personne n'est dans un manège avec ton corps qui ne bouge pas et ton cerveau qui ne comprend pas ce qui se passe parce qu'il voit plein de choses qui bougent à travers tes yeux. Donc là, l'avantage de Flipper VR, encore une fois, c'est que tu as la machine, en fait. Donc tu bouges la tête, tu as le tracking, donc tu vois tout ce qui se passe autour du Flipper et tu tiens la machine en elle-même. Donc finalement, bah, tu es juste sur une transposition virtuelle de ce que tu vivrais en réel. Et pour le coup, pareil, moi, je rejoins Laz. J'ai aucune sensation de nausée ou quoi que ce soit là-dessus.
Ouais, alors,
je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de retours là-dessus ou pas.
Non, moi j'ai eu une fois une personne qui m'a dit, sur les centaines de personnes qui jouent, mais c'est aussi un peu notre savoir-faire. Nous, on fait de la VR depuis beaucoup d'années et on est passé par effectivement la création d'expériences. Et donc, quelles sont les expériences qui sont... acceptables aujourd'hui, quelles sont d'autres expériences qui ne sont pas acceptables. Je voyais quelqu'un qui disait les vidéos 360, effectivement, quand on fait bouger la caméra et qu'on ne bouge pas, ça pose un problème, ce qui n'est pas notre cas. Et c'est pour ça aussi que le meuble est important pour nous, parce que le meuble, on s'accroche au meuble, comme tu dis, donc on a ce pont entre le réel et le virtuel qui est très intéressant pour justement la synchronisation oreille interne, cerveau,
c'est, quoi. Ça, ouais.
C'est vraiment important. Donc normalement, théoriquement, il n'y a pas de souci. Après, il y a juste des choses qui sont possibles. C'est un petit peu de fatigue visuelle parce que c'est dû au casque, en fait. Hein. Le casque, la fréquence d'un casque aujourd'hui n'est pas très élevée. Les gamers, par exemple, ils jouent sur des écrans à 240 Hz. Et un casque, aujourd'hui, on est à 100 Hz quoi, ou 90. Quoi. Donc on est un peu faiblard par rapport à ce qu'on aurait besoin comme rafraîchissement visuel. Donc du coup, on peut peut-être avoir une fatigue visuelle, mais j'ai très peu de cas où on nous a dit c'est fatigant, etc. Donc là-dessus, on est assez serein. Je pense qu'on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Et ce qui est Là où on a besoin d'avoir plus de feedback et tout ça, c'est sur les enfants. Parce que la VR, c'est, aujourd'hui, c'est quelque chose de jeune pour le grand public. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal de recommandations des fabricants aujourd'hui qui sont plus autour des 13 ans. En dessous de 13 ans, c'est déconseillé. Puis là, en fait, ils passent de 13 ans à 10 ans. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont des études qui ont été faites, etc. Donc, un feedback qui font que bon, la réalité virtuelle peut être consommée avec modération, comme tout écran, je dirais, par des enfants. Et voilà, c'est intéressant parce que les enfants, bah, forcément, ils sont attirés. Et nous, on est des vieux cons, mais les enfants, le flipper, ils ne connaissent pas. Enfin, il y en a plein, en fait, qui n'ont jamais vu un flipper de leur vie. Et donc là, bah, du coup, c'est intéressant parce qu'ils découvrent le flipper à travers la VR, qui est un truc moderne qui attire et puis ils le prennent en main tout de suite. L'enfant, il n'a pas besoin qu'on lui explique. Enfin, c'est intéressant. Et du coup, il va vers le flipper et il y en a même qui sont d'abord venus jouer à flipper VR. Ils n'avaient jamais fait de flipper de leur vie. Et puis après, ils sont allés jouer au vrai flipper. Et du coup, bah, ils ont trouvé ça cool.
Oui, ça peut être un pont dans les deux sens, effectivement.
Voilà, c'est pas inintéressant de voir ça.
Ils sont réceptifs.
Tout à fait. Il y a Seb de Soirée Flip qui nous dit « On s'en fiche de la profondeur de code à partir du moment où c'est fun à jouer. L'avantage du VR PinCab, c'est que quand tu en as marre, tu changes de jeu. » Effectivement, ça, c'est une... C'est vrai que là, bon, vous avez un meuble une fois et après, c'est des tables, donc ça ne prend pas de place, vous pouvez les changer. On peut d'ailleurs, ça va me servir d'ailleurs de transition. Je vais vous montrer, les gars, la deuxième vidéo, voilà, avec une table justement un peu plus complète. Et moi, franchement, c'est celle que j'avais découverte à Pontac il y a 2 ans, qui a été nettement améliorée et qui est franchement hyper intéressante à jouer. On vous met ça tout de suite.
C'est très immersive.
Ouais, très immersive. Ça, c'est ce que vous voyez réellement dans le casque, hein. Quand vous êtes, voilà, vous voyez vraiment la fusée, etc. C'est très, très impressionnant. Voilà. Alors, je vais refaire un petit passage via la propriété intellectuelle. Juste parce qu'en fait, vous faites quand même tout ce qui est son aussi. Hein. On est d'accord. Hein. Tout ce qui est son et musique. Hein. C'est un pack complet, en fait. Hein.
Alors, non. Sur la partie sonore, nous, on fait un travail de sound design. Et après, il y a de l'achat d'art. Sur des ressources
mais sinon, voilà. Mais sinon, c'est ça. Il y a de l'achat, en fait, de gens qui travaillent dessus. Mm. Vous n'avez pas piqué la musique d'un gars. Non, mais voilà. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'on pourrait avoir ce genre de remarques en disant, bon, bah voilà, bon, les gars nous disent ça, mais qu'en est-il de la musique, des droits d'auteur ou ce genre de
choses. Oui, c'est vrai, ce sujet. Après, sur de la création originale, ça, c'est quelque chose que j'espère on fera sur nos prochaines tables. Après, là, sur ces projets, oui, on a fait deux. On est passé sur de l'achat d'art.
Oui, très bien. Mais
sur les plateformes sur lesquelles on achète les droits pour y avoir une exploitation commerciale derrière.
Tout à fait. Ben, comme ce que nous, on fait pour nos génériques ou ce genre de choses. Hein. Ce n'est pas moi qui compose la musique et voilà. On paye une licence. Et puis voilà, hein, on est d'accord. Mais au moins, on respecte les règles et puis chacun a sa rétribution au niveau de sa création. Donc ça, je pense que c'était important de le savoir. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la table qu'on voit, donc le Space Flipper ?
Qui s'y colle ? Bah, après, peut-être que je peux commencer, peut-être pour expliquer comment on est arrivé déjà à la thématique. Puisque, comme on l'a expliqué au tout début, on travaillait avec, on voulait surtout travailler avec des professionnels, et on avait eu des demandes par rapport à notamment des contenus pédagogiques.
et on s'est dit que ça serait intéressant de travailler sur le thème de l'espace et des planètes pour avoir une table qui soit polyvalente pour tout ce qui était planétarium, lieux autour du ciel, des étoiles, de l'espace, quoi. Et en fait, on a dévié un peu plus sur quelque chose de fun. Et puis, puisque Pontac est arrivé, on s'est dit, tiens, par rapport à la cible, on va orienter un petit peu avec plus d'humour, plus d'éléments à l'intérieur qui sont arcade. Et pour en arriver à cette table Space Flipper. Après, c'est marrant aujourd'hui entre Space Hunt, Space Flipper et...
Là aussi, il y a Space Singularity.
Et Space Singularity, voilà, oui, c'est voilà, ça, tout à fait. Voilà.
Les Français, ouais, ils nous ont copié.
Alors, la question du coup, est-ce que c'est une fabrication 100% française? On nous demande.
Oui.
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 Alors, je vais pousser le concept du 100% français encore un peu loin. Même les pieds, même tout.
Non, pas encore.
C'est la conception, mais pas les matériaux en eux-mêmes, pas les composants, pas tout ça, quoi.
Non, pas encore, non.
Alors, okay. Déjà sur les casques, Alex est fabricant.
Ouais, c'est compliqué.
Ouais, c'est pas français. Alors, il y a un fabricant français de casques, hein, qui est un très bon fabricant, qui s'appelle Lynx. Donc, on pourra d'ailleurs discuter avec eux. Fabrication 100% française, ça fait partie des choses qu'on veut arriver à atteindre. Hein. Évidemment, faire travailler les gens autour. Aujourd'hui, Seb et Eric, donc la fabrication, ils sont à Tarbes. Moi, je suis à Nantes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire travailler au maximum les gens qui sont autour de nous. Parce que c'est comme ça qu'on veut faire. Et par exemple, tout ce qui est sticker et tout, c'est des gens qui sont autour de chez Eric et Sébastien. Et à terme, on veut absolument essayer de tout faire fabriquer en France. C'est compliqué parce que c'est complexe parce qu'il faut à la fois proposer un prix correct, attractif aussi, et une qualité. Et du coup, pour l'instant, c'est compliqué de se dire on fabrique tout en France parce qu'on n'est pas dans un mode industriel, évidemment. On ne fabrique pas 1000 flippers d'affilée, etc., etc. Donc, c'est complexe, mais c'est des choses qu'on mettra en avant. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est vraiment sur la partie customisation. Et là, je reviens un peu sur le côté marque, etc., etc. C'est justement essayer de valoriser un peu des choses artisanales, c'est-à-dire les barres, les log barres sculptées, les choses comme ça. Enfin, ça, c'est des trucs qu'on pourrait faire et qu'on pourrait faire faire et qu'on pourrait faire faire par des gens qui sont en France, quoi. Voilà. Et ça, on essaye de le faire au maximum, mais c'est compliqué. Ce qui est 100% français aujourd'hui, c'est le dev, puisque le dev, on fait pas ça en Inde, hein, on fait ça chez nous, chez Eric et Sébastien. Donc ça, c'est 100% français. Le dev, le cœur, on va dire le cœur de Flipper VR, qui est le dev, qui est le Flipper VR Engine, c'est du code développé en France. Donc c'est déjà, pour nous, c'est déjà bien. Et puis le reste, ça va venir, c'est certain. Mais pour l'instant, il faut qu'on commence à faire du business, quoi, parce que c'est compliqué.
Mais on précise que c'est manufacturé en France, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas, pas fabriqué en Chine et c'est des machines qui sont importées en Chine. Enfin, c'est important quand même de le préciser.
Non.
Même si les pièces aujourd'hui, évidemment. Et d'ailleurs, on pourra peut-être revenir sur ce qui compose l'interne du Flipper VR, parce que dans les faits, il y a évidemment les écrans, etc., mais il y a aussi, j'imagine, des gyroscopes, des shakers, etc. Il y a peut-être des choses comme ça aussi là-dessus. Enfin, vous partez de pièces aussi qui existent déjà, qui aujourd'hui, difficile de les produire en France. Mais par contre, le Flipper, lui, est bien assemblé, produit, conçu en France, et évidemment, le code est une propriété intellectuelle française de Flipper VR, on est d'accord
là-dessus ? Tout à fait. J'en profite aussi, merci Patou de refaire une dédicace super à Flipper VR. Donc cliquez sur le lien Flipper VR, je vous remets encore même le lien. N'hésitez pas à aller follow la chaîne s'il vous plaît, à faire grimper le compteur. Ils vont vous proposer du contenu à l'avenir et ça sera très intéressant de pouvoir les suivre et d'être directement connecté à la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça vous demande deux petites secondes. Vous cliquez dessus, vous allez follow et vous pouvez rester comme ça connecté avec la team donc de Flipper VR. Vas-y, tu voulais dire
ce que je voulais expliquer sur la table Space Flipper, c'est que cette table, en fait, on y a quand même travaillé pendant un moment et on continue d'y travailler encore dessus parce qu'elle nous a servi aussi à faire tout un tas d'évolutions. Sur cette table, en fait, on a par exemple travaillé tout ce qui était scoring en ligne, de pouvoir remonter toutes les données de score sur des bases de données pour pouvoir après faire des classements, notamment pour les lieux d'exploitation. Donc déjà pour nous, c'était une belle avancée. On a tout un tas aussi de fonctionnalités qu'on a rajoutées au fur et à mesure, comme par exemple pouvoir avoir son classement en live pendant qu'on joue, c'est-à-dire que on commence, s'il y a eu 600 parties de jouer, on est 600e, et après, on ça, va voir cool. Au fur et à mesure sa position dans le classement. Dernièrement, il y a quelques mois, on a implémenté, on a mis beaucoup de temps à le mettre en place. C'était une des contraintes techniques d'ailleurs assez fortes, c'est le nudge. Le fait de pouvoir nudger sur le flipper, ça a été très très compliqué pour nous. Alors, on peut aussi parler de la base technique. Hein. Enfin, dedans, il y a une KL25Z, bien connue par les pinkabistes. Mais le problème qu'on avait, grosso modo, c'était que les données qui remontaient dans Unity, on ne pouvait pas les interpréter. Elles étaient complètement floues et là, on a passé du temps à vraiment faire en sorte de pouvoir les interpréter pour pouvoir nudger dessus, quoi. On a rajouté du tilt, on a rajouté des fonctionnalités de pilotage de l'aide externe au software, donc pour pouvoir faire en sorte que sur le meuble, il y ait des vraies LED qui puissent interagir.
En fonction du jeu et en fonction du gameplay.
Voilà.
C'est vraiment bluffant parce qu'on a Fred qui nous dit aussi ce qui est génial avec leur table, c'est qu'on a une profondeur bluffante. On a l'impression de jouer sur un flip qui fait 3 mètres de long. Il y a une espèce de prouesse technique parce que quand vous regardez en fait en tant que spectateur, vous avez donc comme l'impression de voir un pin cap. Donc vous avez une table entre guillemets proportionnelle à la machine en bois et donc à ce qu'on a l'habitude de voir sur une table de flipper physique classique. Mais lorsque vous mettez le casque, là c'est complètement autre chose. Et ça vous, même si on se rend bien compte que c'est pas la taille d'un flipper normal, mais ça vous paraît normal en fait pour c'est pas choquant en fait, mais c'est bluffant. C'est vrai que c'est très impressionnant. Faut vraiment essayer de l'essayer cette machine pour pouvoir se rendre compte de l'intérêt réel qu'offre en fait une telle machine. C'est
bien de le préciser à l'histoire des. C'est vrai que sur cette table-là, on a voulu aussi faire quelque chose de non conforme au réel et d'aller plus loin sur la profondeur. Et il fait 50 cm dans le virtuel, à peu près 50 cm de plus. Et voilà. Après, ça nous a mis quand même des contraintes sur l'écran de Playfield, en retour pour les spectateurs, parce qu'il fallait réduire, tasser quelque part cette table qui était beaucoup plus longue. Et après, en format largeur, on était sur du white body.
D'accord.
En gros, tu joues sur un Hercule, quoi.
Il y a un peu de ça, ouais.
On va
y venir, mais est-ce que vous avez prévu un shaker par Nico? Exactement.
Spécialement, on va l'appeler Nico.
Alors, il y a combien. Il y a combien de tables en développement? On va tout de suite y répondre, mais juste avant, parce que c'est plusieurs fois qu'on nous le demande, quel est le prix? Y a-t-il du stock? Comment on passe comment?
Alors, c'est $1 million et on passe commande sur PayPal à mon nom. Voilà, c'est tout simple. C'est hyper carré.
Alors, tu vas me donner l'adresse, comme ça je vais la partager.
Ouais, voilà, c'est ça. PayPal, c'est des flippervr à paypal.com, donc c'est super. Non, bah, je vous laisse parler, les gars. Moi, je sais qu'on
est... Aujourd'hui, le flipper, donc le modèle qu'il y a derrière, que l'on appelle le flipper VR Premium, est un produit que l'on vend à 8 990 € TTC. Et donc, après, je rappelle qu'il intègre une grosse configuration, un casque VR. Rien que le casque VR, il vaut, Alex,
dans les 700
euros. Je veux dire, on est quand même sur des produits assez qualitatifs. Sur le choix de l'écran, on a des formats équivalents qui valent deux fois moins cher. Donc, on essaie d'avoir un produit, une config vraiment bien finie, clé à main, tout monté. Et ceux qui font du pincab, déjà de base, connaissent un petit peu les prix. Donc là, on a essayé de se positionner quand même sur, euh, sur un prix relativement intéressant par rapport au matériel qui est derrière.
Et cohérent face au marché, quoi.
Et oui, parce que les gens, enfin là je parle pour la cible du particulier, mais l'objectif, c'est pas juste jouer à du flipper vert. Nous, on démarre un catalogue, mais c'est d'avoir, demain, ils peuvent se servir de la machine pour faire d'autres expériences en réalité virtuelle.
Alors, justement, je vais le rappeler, parce que les gens qui sont là maintenant sont peut-être pas les mêmes qui étaient là au début du podcast. Ok, bon, moi, votre truc, franchement, la réalité virtuelle, c'est génial, c'est machin. Mais moi, les petits chevaux ou le design du Space Flipper, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais plutôt un truc genre VPX ou Pinball M ou un truc... Je peux utiliser votre machine pour intégrer ça ?
Je ne vais pas vous dire qu'on a joué à Pinball M cette semaine à l'agence, mais...
Mais oui, ouais, justement, je sais, je l'ai vu parce que j'ai vu l'intégration. Je le posterai demain, les petits pinheads sur Lazarus, mais j'ai vu l'intégration de la table The Things. C'est juste une putain de tuerie. Là, justement, je fais le naïf pour vous tendre la perche, mais effectivement, si, par exemple, vous n'y trouvez pas votre compte sur l'étape proposée en VR et développée en interne par Flipper VR... Vous avez en fait toute l'intégration possible de VPX, on est d'accord ?
Oui.
Voilà.
Nous, on ne l'intègre pas quand on va le produire.
Non, vous ne l'intégrez pas parce que...
Voilà. Oui, pour les raisons...
Pour les raisons de droit.
On ne peut pas vendre cette chose. On ne peut pas vendre cette chose.
Vous ne pouvez pas vendre cette chose, mais vous pouvez...
La machine est compatible. Donc, les personnes souhaitant l'installer peuvent le faire. Voilà.
Et pareil sur Pinball FX, Pinball FX 3, ça marche aussi ? Ça fonctionne ? Oui. Alors, moi, j'ai une question, puisque c'est du Quest. Est-ce que, par exemple, si je prends Pinball VR de chez Zen Studio, ça fonctionne ?
Non.
Là, ça ne fonctionne pas.
Ça, non. En fait, si tu veux, tu as la partie VR qui va fonctionner avec notre Flipper VR Engine, donc nos jeux, et aussi VPX. Arrêtez-moi, les gars, si j'ai dit une connerie, mais je ne pense pas. Et le reste, c'est-à-dire Pinball FX 3, Pinball FX, Pinball M, c'est du PinCab, parce qu'ils n'ont pas de... Ces softwares-là n'ont pas de VR. Et c'est vrai que l'incompatibilité, pour aujourd'hui, elle est dans les éditeurs tiers qui font des softs VR. Parce que ça, il faudrait qu'on récupère le code, en fait. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui avec Zen Studio. Alors, Zen Studio, c'est intéressant de discuter de Zen Studio parce que on a vu il n'y a pas longtemps qu'ils ont fait un partenariat pour du PinCab. Ils ont sorti une table sur du PinCab. Donc, ça veut dire que quelque part, ils sont ouverts certainement à des collaborations. Donc, on ne perd pas espoir de pouvoir un jour les amener sur Flipper VR. Enfin, pourquoi pas, quoi. Voilà, en tout cas, les discussions sont en cours. Voilà.
Surtout qu'on arrive... les trois écrans, on va dire, ce n'est pas très compliqué. Le Tirby, le Nudge, c'est un petit peu plus compliqué sur une base 4.25.7 comme on utilise pour pouvoir faire tourner FX. Donc souvent, c'est plutôt... Enfin, les PinCabis, il y en a peut-être dans le chat là, qui m'y ont, mais souvent, ils bricolent plutôt les manettes pour essayer de récupérer le Nudge. Tandis que là, on arrive à le faire nativement, là aussi, en ayant fait des paramétrages un peu spécifiques.
Donc là, du coup, on jouerait à Pinball FX avec le Nudge.
En mode cabinet et Tirby.
Donc ça, c'est clair. Alors,
ce qu'il faut bien comprendre, donc du coup, juste pour résumer, c'est que dans le prix que vous annonciez tout à l'heure, 8990, c'est ça, dans ce prix-là, on acquiert finalement la machine Flipper VR et tout ce que ça comporte derrière en termes de VR, mais finalement, on acquiert aussi une base pour faire du PinCab plus traditionnel aussi. C'est-à-dire que l'idée, c'est un peu la machine
deux ans
aussi. C'est bien aussi d'avoir cette vision-là aussi, parce que pour ceux qui n'auraient pas non plus l'envie de se lancer dans un DIY sur un PinCab, mais qui veulent une machine évolutive qui permette de faire les deux, finalement, Flipper VR répond aussi à cette possibilité-là. Sauf que de ma part, vous êtes les seuls à faire ça aujourd'hui. Donc,
tu t'achètes plusieurs choses. Tu t'achètes un Flipper VR d'abord, ça c'est vraiment l'ADN du truc. Avec le casque pour jouer au flipper en VR, tu t'achètes un gros PC pour pouvoir jouer à la VR sur d'autres expériences. Tu peux jouer à Half-Life, Alix, en VR, avec sur la base du PC qui est dans la machine, hein, y a pas de problème.
Oui, c'est vrai.
Et tu t'achètes aussi un PinCab sur lequel tu vas venir installer tes logiciels favoris. Voilà. Donc, t'as trois fonctions. Et puis, tu peux faire du Word et de l'Excel, hein, si tu veux aussi. Hein,
oui, c'est ce que...
La comptabilité, si tu veux faire ta comptabilité, tu peux aussi
le
faire
sur le Flipper.
C'est ce que nous dit notre Saint-Père dans le chat. Pour 9000 euros, on va arrondir, pour 9000 euros, tu as donc un Flipper VR Engine compatible FX, VPX, Steam, etc. etc. quoi. Tu as vraiment une solution gaming que tu en as, en fait.
Et tu as une machine française. Donc, quand tu appelles pour dire ça ne marche pas, on te répond en français. Et on te dit, on n'est pas loin, mon gars.
Et c'est vous qu'on a. Alors, deux choses. Je vous mets le lien du site, les gars. Allez cliquer. C'est la page, justement, du Flipper VR version premium. Vous avez toutes les informations nécessaires. Voilà. Je vous rappelle aussi, on insiste un peu lourdement, je le sais, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ne m'en veuillez pas. Je vous mets également le lien du Discord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le Discord, en fait, vous pouvez contacter directement l'équipe qui est sur Discord. Donc, vous pouvez chatter directement avec eux. Et voilà, dans les salons ou en message en direct. Et c'est eux que vous avez en direct. Donc, comme tu dis, on ne tombe pas sur une passerelle. On vous a en direct. Et ça permet d'avoir vos renseignements et d'avoir, en fait, vos informations à la source, ce qui est plutôt une bonne chose. Et justement, c'est une des prétentions que les Discords vont avoir, qu'on met en place, c'est de mettre les gens en relation les uns avec les autres et de faciliter, justement, en toute transparence, les contacts pour que la communauté se fédère, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur flippervr.com et sur le Discord.
Voilà. Et à ce sujet, le Flipper VR évolue grâce à la communauté. Depuis qu'on a présenté le premier exemplaire à Pontac, c'est vrai que l'évolution du Flipper, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout, on apprend aussi.
On connaît pas tout.
Ouais. On connaît pas tout. Donc... on connaît pas tout 07. Ouais, et aussi, grâce à Patou, on avance aussi on implémente des choses qui sont intéressantes pour les gens et qui des choses qu'ils veulent. Donc c'est aussi l'intérêt de fabriquer aujourd'hui en France et de vendre en France, c'est pouvoir aller peut-être même plus vite sur la partie évolution, quoi. C'est comme tu disais, les évolutions, t'en as parlé tout à l'heure, Laz. L'écartement des flippers à Pontac, avez testé, on a des retours. Donc ça veut dire que quand vous achetez la machine, la table, c'est le code, il évolue aussi. On améliore les choses. Et puis bien sûr, on parle des nouvelles tables qui sortiront. Ça c'est aussi
au fil des salons, au fil des rencontres.
Ça fait une transition toute trouvée parce que. Tout à l'heure, on nous demandait justement sur les tables qui sont développées ou en cours de développement. Aujourd'hui, l'offre, elle se résume à quoi concrètement? Parce que là, on a parlé de Tagada, je crois, c'est le nom de la partie qui, moi, me fait penser. D'ailleurs, tiens, j'ai retrouvé les mêmes sensations que j'avais quand je jouais à Puzzle Bubble, vous savez, ce côté où tu mets des malus à l'autre. C'était juste c'est comme ça que je l'ai vécu quand j'ai vécu cette expérience. Donc il y a Tagada, il y a aussi donc Space Flipper. Est-ce qu'on a d'autres tables aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a évidemment d'autres en préparation?
Oui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous
pouvez en parler ou pas.
Tu peux en parler.
Oui, alors sauf si c'est des secrets de Polychinelle, après c'est.
Ça permet de teaser. Mais... Non, après on a déjà évoqué le sujet même sur des événements. Après là, la table.
C'est de la grosse licence.
À venir. Non, là c'est. Je rêvais. Non, là on travaille, notre projet à venir, on est sur une table, sur une thématique maison hantée, on va dire.
Génial.
Ouais, alors après, ce qu'il faut ajouter aussi à tout ça, donc là, il y a aujourd'hui trois tables pour les particuliers. Évidemment, il y a d'autres tables pour les professionnels, parce que c'est du custom. Donc
tu peux citer la troisième?
Alors il y a le Virtual West, qui est un western, qui est sympa aussi, qui est la première table d'ailleurs qu'on a présentée, le Virtual West.
C'est la première table
qu'on a. Ouais, elle est sympa, l'environnement est sympa, on est dans un saloon, encore une fois, c'est des choses qui évoluent aussi aujourd'hui. Et puis, bah là, il y a la quatrième table, effectivement, Maison Hantée, qui est sur le chemin. Et puis, bah après, il faut qu'on adopte un rythme de développement de table. Donc, évidemment, ça dépend du succès du produit ou du moins de succès du produit. L'idée, c'est de pas, on va pas devenir riche en fait, voilà, ça c'est sûr. Par contre, l'argent qu'on va avoir, on va pouvoir le réinvestir dans le dev d'autres tables. Donc c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va arriver à essayer de développer à terme, je pense entre une et deux tables par an, quelque chose comme ça. Si je dis une connerie, les gars, vous me coupez, parce que j'ai tendance à dire pas mal de conneries quand même. Voilà, une ou deux tables par an. Après, on va rentrer dans un système pour les gens qui ont acheté un flipper vert, un système d'abonnement, quoi, je pense.
Il va y avoir deux types de tables.
Je me permets juste de souhaiter la bienvenue à Ethios. On va juste faire le test.
Salut les gars.
Ah, voilà, c'est bon, super, hello, ça fonctionne. Hello. Voilà, ça va bien. Voilà. Merci.
Je vous ai écouté sur le trajet. J'ai rien loupé de la conversation.
Bon, bah super, tu vas pouvoir rebondir. À rebours, mais tu vas pouvoir rebondir.
Il a loupé tout son rendez-vous client. Par contre, il n'a pas loupé le live.
Non, je voulais juste vous dire, c'est que n'achetez jamais un appartement en copropriété, surtout dans l'ancien. C'est une catastrophe.
Bon, en tout cas, donc tu es bienvenu de sa réunion de copro. Tu nous disais, vas-y, Jerry.
Il y a de toute façon, dans tous les cas, il y aura deux axes de développement qui sont, on va dire, des tables dans l'esprit de Space Flipper, donc avec du code qui va être de plus en plus élaboré, de plus en plus profond. Et un deuxième axe, dans tous les cas, qui va partir sur du battle, du multijoueur, sur du code beaucoup plus court, avec plutôt en mode party game, quoi.
Alors, je rajoute un truc qu'on a peu développé jusqu'à présent, et vraiment, moi, ça me tient à cœur, parce que je viens de la création d'expériences réalité virtuelle, c'est les mini-jeux qui vont exploiter le pouvoir de la réalité virtuelle. Je m'explique. Tu te retrouves avec des billes énormes qui te tombent dessus comme ça, et puis il va falloir essayer de les éviter. Ou alors tu es au bord d'un précipice et y a une bille qui essaie de te pousser, etc. etc. C'est tout un truc qui est intéressant, parce que finalement, les mini-jeux dans le flipper traditionnel, il y en a moins qu'avant, mais il y en a quelques-uns, des petites missions, des choses comme ça. Et bah là, en fait, tout le pouvoir de la réalité virtuelle va pouvoir être exploité, quoi. Et aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait le cas dans les tables qu'on a, mais parce que c'est du dev et c'est compliqué, etc. Mais c'est vraiment des trucs auxquels on tient, quoi. C'est vraiment quand t'es dans la VR, il faut qu'on propose des choses qui soient liées à la sensation, au positionnement dans l'espace, au fait que tout autour de nous, on est dans un environnement virtuel, etc. Donc ça fait partie des choses qu'on
vraiment, on a pas développé. Les vidéos boîtes, en fait, on les a pas développées aujourd'hui.
C'est ce que j'allais dire, c'est en fait vous remettez au goût du jour les vidéos mode qu'on avait sur les flippers à l'époque, mais en mode réalité virtuelle. C'est-à-dire quand tu dis t'es au bord d'un précipice, etc. En fait, tu viens mixer la partie expérience virtuelle avec ton flipper, et du coup, évidemment, j'imagine que jouer l'intégralité d'une partie comme ça, t'as envie de te tirer une balle au bout de deux minutes. Par contre, on pourrait imaginer des vidéos mode comme ça sur des temps très courts qui te permettraient du coup de casser un peu le rythme et de passer dans un délire un peu encore plus immersif que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est ça l'idée ?
Ouais, complètement. C'est-à-dire, par exemple, tu es une petite souris et tu es au centre du plateau, par exemple. Et donc tout est gigantesque. T'es à l'intérieur du plateau, tout est gigantesque, y compris les billes qui arrivent. Et puis t'as des façons de les éviter ou de les renvoyer. Voilà, un truc simple, parce qu'il faut rester dans le simple. Il faut pas perturber les gens déjà qui sont dans un casque. C'est déjà compliqué. Mais des jeux simples comme les vidéos mode des flippers, hein, truc simple. Mais par contre, qui exploite à fond la réalité virtuelle pour qu'on ait un. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on va s'y mettre, quoi, vraiment.
Mais c'est génial parce que moi perso, par exemple, sur la démo, par exemple, du casque VR que j'avais le Quest. J'adore justement, tu parles d'expérience de VR. Il y a une espèce de mini-jeu, tu sais, pour la prise en main du truc où tu dois prendre, je crois, un avion en papier, tu dois le lancer ou des machins. En fait, je trouve ça génial. Alors évidemment, tu peux pas bâtir un jeu complet là-dessus parce que voilà. Mais plein de micro-expériences comme ça qui sont top. franchement, ça te donne une expérience globale qui est vraiment excellente. Voilà. Donc, j'ai hâte de découvrir ce que vous allez
donc
pouvoir
vous imaginez
proposer,
ce qu'on peut faire en VR avec une maison hantée. Imaginez bien les choses. C'est-à-dire, mettez-vous bien dans l'ambiance, vous êtes dans la maison, il se passe des trucs. Quoi, voilà. Donc ça, c'est quand même ce qu'on peut... C'est vraiment le plus de la VR. Quoi. C'est-à-dire que on aura beau à faire des choix de pin-cab, on n'arrivera jamais à mettre quelqu'un dans une ambiance immersive parce qu'on n'est pas dans un casque, tout simplement. Donc ça, c'est notre truc qu'on voudrait avancer. Voilà. Donc pour avancer ça, bah, il faut que ce soir, on vende 10 000 flippers VR. Donc si vous pouviez cliquer
sur le
PayPal,
c'est maintenant. Nous avons justement 10 000 et 1 follower sur la chaîne.
Voilà, donc chacun achète son flipper.
J'en prends 10.
Très bien, on te fait un prix.
Juste un complément.
Je vais en revendre un à Nico après et je lui ferai croire que c'est moi qui l'ai fait.
Avec Checker.
Avec Checker.
Avec Checker, bien évidemment.
Juste un complément de ce que tu disais, Alex. C'est vrai que nous, avec tout le développement qu'on a fait, mais qui était déjà un sacré défi et dont on est vraiment déjà heureux de ce qu'on a fait, on est resté quand même dans les codes du flipper. Et on a appris, comme disait, que ce soit avec les salons, les retours utilisateurs et tout ça, on a travaillé l'environnement, on fait de l'animation et tout ça. Mais c'est vrai que on peut aller beaucoup plus loin et se lâcher. Et ça, ça va être complètement délire. Donc aujourd'hui, ça, on l'a pas vraiment encore attaqué. Mais
avoir un plateau, pardon, excuse-moi, mais avoir un plateau, par exemple, on peut imaginer à géométrie variable. Qui évolue, qui grandit, qui pousse dans la largeur, la hauteur, qui s'effondre, ou la caisse qui s'ouvre sur les côtés.
T'as notre plateau derrière.
Ouais, non, mais d'ailleurs, je ferai très certainement un stream bientôt sur ce jeu. Mais si à l'occasion, vous pouvez le tester, c'est le flipper Akira sur PS2. Et vous verrez que ce jeu, en fait, moi, il était totalement inconnu. C'est Wawa qui me l'a fait découvrir en me disant... Tiens, mais tu savais qu'il y avait un flipper Akira. Il me dit non, sur PS2, regarde, c'est très peu connu, mais le. Et en fait, il est génial parce que tout à l'heure, je voyais Soirée Flip qui disait un escape game. Bah, tu es un peu dans ce délire, ouais. C'est-à-dire que tu finis ton plateau et ensuite tu passes sur un autre, il se transforme. Il faut que tu sortes du plateau pour aller vers le suivant, etc. etc.
Ouais, et puis l'escape game, ça peut être sympa aussi parce que tu peux avoir un côté genre, tiens, cette rampe-là ne fonctionne pas. Pourquoi ? Bah parce qu'il faut faire ça dans tel ordre pour pouvoir débloquer le mécanisme. Oui, il y a plein de choses. Notre Saint-Père qui dit toujours très intéressé, il faut que je bosse ce truc pour arriver avec des éléments pour mon boss, justement. Bah, les éléments pour pouvoir convaincre ton boss, c'est effectivement de pouvoir proposer une machine complètement customisable, c'est-à-dire à l'identité donc, de l'entreprise. Ce qui permet aussi
le Vatican, on le rappelle.
Ce qui permet aussi bien aux salariés. Eh ben, de trouver un objet innovant et inattendu. Mais c'est pareil pour les rendez-vous de son patron. À un moment donné, s'il veut créer un petit peu la différence et voir que sa boîte est à la hauteur donc, des avancées technologiques et modernes, ça peut être aussi un argument en disant, voilà, quand il fait rentrer ses clients, au fait, venez jouer un petit peu, vous allez voir, c'est plutôt sympa comme machine. Regardez, c'est justement dans l'ADN de notre entreprise de pouvoir se tourner vers les nouvelles technologies. Je ne sais pas dans quelle boîte il bosse, enfin, dans quelle boîte tu bosses, mais voilà, ça peut être des arguments qui peuvent être valables. Et surtout, le bien-être pareil du salarié au travail, ça peut être aussi des moments de convivialité et de team building, hein, c'est-à-dire bon, bah, tout simplement à un moment donné, le soir l'entreprise dit bah, tous les vendredis soirs au lieu de débaucher à 17h on va débaucher à 16h30 et on aura tous le droit de jouer une petite demi-heure, voilà, et c'est l'histoire de se donner de se dire au revoir pour le week-end. Il y a plein d'arguments qui peuvent vraiment faire basculer un... Oui.
Juste là, ça me fait penser ce que tu dis. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est le côté handicap. Alors ça peut paraître
ça m'intéresse. Mais ouais, ça m'intéresse.
On s'est retrouvé sur un événement,
sur plusieurs.
Oui, sur plusieurs événements, mais je pensais au premier à laquelle c'est est arrivé sur le fait qu'il y a une personne donc en fauteuil roulant.
En mobilité.
Vous imaginez pour une personne en fauteuil roulant aujourd'hui, jouer au flipper, c'est pas évident parce qu'au niveau de la hauteur. Les mains ici et la vue de la table, ben, elle n'est pas vraiment possible. Ouais. Donc plutôt galère. Et la personne arrive sur le salon. On avait déjà évoqué un petit peu le sujet en interne. J'ai dit, ben, tiens, on va tester un truc. On a recalibré le casque et le niveau du sol. Et en fait, il a pu faire donc un VR avec... c'était sur Space Flipper. Et il a pu jouer, enfin, à un flipper avec les bras devant et la table à la bonne hauteur qu'il avait au niveau de ses jambes. Et bien, je vous promets que les retours... Enfin, et bien, ça, on s'est dit, nous, on peut très bien demain rajouter un bouton ou dans le menu mode... handicapé,
non, handicapé, c'est le mot, faut pas avoir peur de le prononcer. C'est un handicap visible, ouais. Hein, c'est voilà. Ouais. Et c'est une très bonne initiative et c'est quelque chose qui effectivement, moi c'est un sujet qui m'intéresse, le handicap dans le flipper, parce que pareil, on a des gens parfois qui peuvent être hémiplégiques et qui peuvent avoir effectivement un côté du corps qui ne fonctionne pas correctement. Et comment faire en fait à ce moment-là? On peut trouver effectivement des solutions, soit avec une manette dans une main qui permet d'actionner soit les deux boutons, etc. Enfin, c'est quelque chose d'intéressant et c'est vrai que j'ai déjà évoqué plusieurs fois en live, c'est un sujet que j'aimerais creuser et on a pareil, hein, vous le savez, vous avez Retro Smile souvent qui œuvre aussi auprès des enfants hospitalisés. C'est un vrai sujet, le flipper dans les hôpitaux, le flipper pour des personnes à mobilité réduite, etc. Et c'est quelque chose de... Je pense qu'il y a des actions à mener. Et je pense qu'il y a des retours aussi à avoir sur nos machines. Je pense que ça peut être très intéressant, ce partage et cet échange.
En tout cas, le fait qu'une personne nous dise « c'est la première fois que j'ai pu jouer au flipper correctement », on se dit
« ah, mais c'est cool, c'est génial ».
C'est sympa, en tout cas.
C'est super. Vas-y.
Juste, je voyais dans le chat tout à l'heure, c'est sur un sujet un peu plus léger, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure, « vous ne pouvez pas faire un flipper Playboy ?» Alors,
il y avait Fred qui a dit Clara Morgan tout à l'heure, j'ai eu.
Alors, pour la blague, je vous promets que sur tous les événements, on a fait Pontac, BGS, Retroplay, sur lesquels on a été invités, et d'autres événements en parallèle. Et le nombre de personnes qui nous demandent « vous n'avez pas un mot de cachet, un truc un peu
ouais.
Et tout ça ?»
Et, un petit easter egg.
Et on sait très bien qu'il y a... Il y a des secteurs d'activité qui ont fait évoluer dans le passé certaines technologies.
Après, c'est marrant.
Tu veux en vendre 10 000 ou pas?
C'est important.
Mais vous n'imaginez pas une personne qui nous le demande.
Voilà. Ah, si. De toute façon, en même temps, c'est ce qu'on disait en préambule là, avant le podcast. Le VR, enfin la technologie VR, t'es un des premiers trucs qui a popé dessus. Enfin, faut pas se mentir, hein, ça a été le porn derrière. Donc, évidemment, tout le monde va dire, j'aimerais bien avoir ma table un peu cochonne. Et moi, j'ai des idées hein, pour les vidéos mode là, si vous partez là-dessus. Hein.
Et je pense qu'Etios aussi. C'est d'ailleurs ce qu'il faut savoir, c'est d'ailleurs l'industrie du porno qui a développé, qui a misé énormément. Sur le développement, les gens ne le savent pas, ça, parce que c'est tabou.
Oui,
c'est d'en parler. Et là, on parle vraiment d'avancée technologique. C'est grâce à eux, et c'est pareil, hein, tout ce qui va être Blu-ray ou DVD ou ce genre de choses, c'est-à-dire le mettre le maximum de données et de détails pour vous faire vivre une expérience au plus proche du réel. Faut pas croire, mais c'est souvent l'industrie du porno qui essaye de mettre des billets dedans parce que concrètement, si j'arrivais à te mettre mes couilles sur le visage, t'as vraiment l'impression d'y être dedans et t'as une immersion totale du truc. Voilà, on est un peu dans le trivial là, mais bon, c'est ça le truc quoi.
Voilà, donc après, on est en train de se poser aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, pas mal de questions sur la partie licence parce que c'est vrai que ça fait rêver toujours un peu de travailler sur une licence. Donc on réfléchit à cette question, on essaie de prendre des contacts. Si vous avez, c'est pareil, hein, on écoute la communauté dans ces cas-là ouais. aussi. C'est-à-dire, les licences que vous avez envie de voir dans ce genre de configuration, les bonnes idées, parce qu'on n'a pas que des bonnes idées. Nous, des fois, on a des idées, elles sont nazes. Ça nous est arrivé.
Surtout les tiennes, oui.
Je crois que c'est surtout le mec à gauche là-bas avec le t-shirt.
Après, il y a plusieurs versions de prévu ou pas?
Alors là c'est intéressant parce que le dernier châssis il est derrière mes copains. Sur le dernier châssis, on a pas mal travaillé sur la LED commandable directement via le Flipper VR Engine, etc., etc. Donc on a pas mal travaillé là-dessus. Après, ce qui est compliqué dans plusieurs versions de châssis, c'est qu'à un moment donné, soit tu choisis d'essayer de fabriquer de manière simple. Alors, je ne dis pas industrielle, parce que de toute façon, ça n'existera pas dans ce genre d'économie, mais tu essaies quand même d'en faire suffisamment d'exemplaires identiques pour que ce soit facile à construire. Le mieux pour nous, c'est d'essayer d'aller au bout d'un châssis qui est quand même performant, joli, etc., et qui a une bonne taille. C'est surtout quand même lié pas mal au playfield, hein, à l'écran du playfield, cette histoire de taille. Je pense que ce serait bien qu'on arrive à quelque chose de, voilà, de entre guillemets, pour nous, standard. Parce que si on se met à faire des wide body, des normaux dans tous les sens, etc., c'est quand même un peu compliqué.
Ça rejoint une question qui a été posée tout à l'heure, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez du stock du coup en fonction des modèles là, qui sont proposés sur le site, ou est-ce que vous fonctionnez en flux tendu à la commande? Aujourd'hui, si c'est à la commande, c'est quoi les délais?
3 mois.
Vraiment. Donc c'est à la commande, on est d'accord.
Ouais. Après, c'est un délai max. Nous, on peut faire plus rapidement, mais c'est à la commande, ouais.
Ok. Non, mais c'est bien de le préciser.
Nous, le gros du travail, il n'est pas sur la partie hardware quand même, il est vraiment sur la partie software. C'est ça qui nous prend beaucoup, beaucoup de temps à peaufiner. Et on va encore plus demain, je crois, faire participer la communauté. On a des protos là aussi qui sont en cours de développement, qu'on va diffuser à des bêta-testeurs pour travailler avec eux à la physique, voir ce qu'ils en pensent. Sur une nouvelle physique qu'on est en train de voir. Voilà. Et puis après, on va essayer de faire beaucoup plus aussi, comme je le disais. Déjà en mode battle, alors peut-être sur du hardware, peut-être on est en train de réfléchir aussi à juste un software, pourquoi pas des versions desktop, un mini-jeu, des déclinaisons en fait de notre jeu principal.
Ouais, après, il y a des. Oui. On a réfléchi à pas mal de trucs sur ce sujet de flipper multijoueur en même temps. Par exemple, quelqu'un qui joue sur le flipper VR et puis quelqu'un à côté sur son smartphone qui est sur la même partie, alors peut-être pas la même table, etc., mais en tout cas qui peut éventuellement l'aider ou l'empêcher. Enfin, voilà, on a pas mal de possibilités comme ça de connexion inter-plateforme.
Du gameplay asynchrone, quoi.
Ouais, des trucs qui pourraient être vachement intéressants. Dont on a pas mal d'idées sur le sujet, donc ça fait partie des devs futurs, et encore une fois, comme on est propriétaire du code, c'est plus facile quoi, du coup, de faire ça quoi.
Ok, bon, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Je vous remercie à toutes et tous, je vous remercie pour les follow, je vous remercie pour vos subs, je vous dis à très bientôt, et surtout n'hésitez pas, en attendant, vous jouez au flipper et faites des high scores ou pas. Salut et merci à tous. Ciao, ciao.